Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un bon 60 minutes ensemble, puisque ce soir, j'ai un invité qui a été demandé depuis des semaines et des semaines, et finalement, ben, il est là, il est devant moi. Son nom, c'est François Lambert. Je sais pas trop comment le présenter, je pense que je peux dire que c'est un homme d'affaires. C'est un gars qui est régulièrement dans les médias. Salut François.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Merci beaucoup de m'accorder un genre de 60 minutes parce que je te suis sur les réseaux sociaux, François, et ce que je constate, c'est que tu sembles avoir plus d'heures dans une journée que 24. J'ai l'impression aussi en te suivant que tu sembles avoir plus que 7 jours dans une semaine. Puis je me demande toujours comment tu fais pour rester dans l'univers médiatique tout en étant capable de gérer tes entreprises.
La santé en premier. Tu sais, c'est j'ai pas été diagnostiqué avec cette particularité-là, mais il y a des gens qui sont capables de fonctionner en ayant moins de 4 heures de sommeil. C'est inné. Et c'est juste comme ça. J'ai pas à m'inventer ni à me dire, gars, je suis meilleur. J'ai jamais dormi de ma vie depuis que je suis jeune. J'étais un anxieux vraiment. Et j'utilise cette anxiété-là pour m'amener plus loin au lieu de m'étouffer. Des fois, je dors. Là, c'est parce que, étant donné que je fais les débatteurs à nouveau 2 fois par semaine.
Ouais.
Mais je nage aussi 3 fois par semaine. Je me lève à 4h30, je finis la TV à 11h, le temps que je suis couché, il est minuit et demi. Disons, il y a des journées qui sont un peu plus courtes que la normale que peut endurer. Donc, la fin de semaine, là, les samedis ou dimanches, des fois, je vais me faire une grasse matinée jusqu'à 6h du matin. Là. Mais...
mais pour les gens qui t'entourent, sans trop rentrer dans ta vie personnelle, des fois, ça doit être raide d'avoir un François Lambert tout le temps à côté de nous autres. Je veux dire, le corps humain fait en sorte qu'on a besoin d'un 7-8 heures. Le corps humain fait en sorte qu'on n'a pas tout le temps besoin de travailler. Si ma conjointe était une François Lambert, bon, de un, je te dis, elle est pas mal plus sexy que toi, là. Mais si ma conjointe était une François Lambert, je suis pas sûr que je trouverais ça relaxant. Ça prend des gens qui ont un mindset puis un physique un peu comme toi.
Il a fallu que ma blonde Marilyn soit à côté de moi pour te dire que c'est effectivement le cas. Mais bon, mes enfants ont 23 et 21 ans. Donc, ça règle une partie du problème parce que j'ai pas à m'en occuper, j'ai pas à faire à manger, j'ai pas. Je suis un père, mais je suis pas. C'est des adultes. Maintenant, ma blonde, elle a besoin de dormir énormément. Donc, on fait partie des couples qui n'habitent pas ensemble et quand on est ensemble, on ne couche pas dans la même chambre parce que ça donne rien. Je vais me lever à 2. Moi, si je me réveille à 2h du matin, je me réveille puis je me lève. Elle, elle va vouloir retomber dans son sommeil rapidement. Elle dort pas beaucoup. Donc, tu sais, à un moment donné, si tu veux que ton couple dure, pourquoi ne pas se divorcer du lit? Donc, c'est exactement... ce qu'on fait, au début, je t'avoue que ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Puis au début, quand on a commencé à faire ça, puis on en a parlé, parce qu'il faut que ça vienne de deux bords. Là. C'est pas comme quelqu'un qui dit, tu t'en vas dans une autre chambre. Là. À un moment donné, moi aussi, je me sentais mal à l'aise parce que je me levais, je faisais attention de ne pas faire du bruit. Puis à un moment donné, on s'est comme regardé. Puis on a dit, regarde, je vais aller coucher dans une autre chambre. Puis maintenant, c'est comme ça. Et ça me permet de moi de faire mon rythme de vie, elle de faire le sien. Puis quand on voyage, on couche dans la même chambre. Là. On n'est pas incompatible, mais c'est plus simple dans la vie de tous les jours de faire ça. C'est vrai que je dors pas beaucoup, mais je vis un moment dans ma vie qui est charnière, qui est intéressant. Je suis en santé, j'ai 56 ans. Je suis en santé, je suis en train de monter une entreprise, ça fait 5 ans et demi là, que je suis là-dessus, qui est le fun à développer, qui est tough, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui est facile. J'aime ça, tu en as parlé au début, j'aime ça être dans les médias.
Ouais.
Pas pour être dans les médias, pas pour être populaire. J'ai vécu cette étape-là d'aimer être populaire. Là, c'est pas important. Je pense que j'ai un mot à dire dans l'univers médiatique au Québec. Je dois sûrement l'avoir parce qu'on m'invite. Mais après ça, ce que je dis ne fait pas le bonheur de tout le monde, mais je pense que ça fait... Ils veulent m'entendre pareil, de dire qu'est-ce qu'il va dire, lui, là-dessus. Et je pense qu'on peut être un homme d'affaires, être entrepreneur, être dans le commerce de détail et aussi partager une opinion sans nécessairement diviser le groupe. T'sais, une opinion, c'est là pour ouvrir une discussion et ne pas partir une chicane.
OK. Hey, écoute, on va y revenir à cette opinion-là dont tu me parles juste avant. Puis je me suis promis de te le demander. Faut-tu être fou pour prendre des bains de glace à tous les jours? Parce que honnêtement, moi, je te regarde aller. Ben, je ne sais pas si tu mets encore ces images-là sur les réseaux sociaux, mais quand tu prenais des bains de glace, je me suis dit, il est complètement fou prendre des bains de glace le matin. Le matin, oui. Ça prend un café chaud, ça prend une douche chaude. Ben non, François Lambert, lui, il se tire dans un bain de glace. Faut être fou un peu.
Faut être fou la première fois, faut être fou la deuxième fois. Et à un moment donné, c'est le plaisir. Sans blague, ça reste le fun à faire. Tu dis, écoute, je m'en vais vivre quelque chose pendant 2 minutes qui va être moyennement agréable, mais après ça, le restant de la journée va être des petits défis par rapport à ça. Tu sais, il y a tout le temps, tu vas me dire que je suis craqué, mais cet hiver, j'ai pas été dans mon état parce que c'est dangereux d'aller dans mon état. Puis pendant la pandémie, on était tous en campagne.
Ouais.
Donc, je pouvais aller dans l'étang. Il y a des marches pour descendre. Il fallait que je fasse un trou avec une hache. S'il m'arrive quelque chose, bien, les gens vont venir me voir en dedans de 5 minutes. Là, cet hiver, j'étais plus tout seul au chalet. Si je tombe, je suis peut-être encore là, là. Puis là, c'est des inondations. Donc, je suis parti avec le courant. Là. Donc, mais la beauté, et je ne sais pas si c'est la même chose que vous autres à Québec, à Montréal, l'eau, c'est des couteaux de rasoir. C'est glacé, glacé, glacé. Fait que je prends ma douche froide tous les matins. Et il y a une fois de temps en temps, je me dis, mais pourquoi? Puis un coup que c'est fait, je me dis, hey, je l'ai encore fait. Ouais. Puis ça fait du bien. Puis ça fait partie d'un style de vie. C'est pas, je le mets moins sur les réseaux sociaux parce que les gens le savent. Et le message est passé. Puis je passe à autre chose. Là, mais... je le fais tous les jours.
Mais les gens qui pratiquent le même rituel que toi me disent tout le temps que c'est bénéfique pour le corps humain, puis ils se sentent mieux après l'avoir fait. Ils ont comme un moment de détente après l'avoir fait, mais en même temps, sont énergisés par le geste de se donner un stress comme ça thermique. Donc, tu n'es pas le seul. C'est juste que pour les gens comme moi, les petites bêtes d'eau chaude comme moi, on a de la misère à comprendre pourquoi ça vous motive tant que ça. Je veux revenir à tes opinions, François. Est-ce que c'est un leitmotiv des fois de voir qu'il y a des gens qui disent « Là, là, moi, là, lui, François, je suis plus capable de l'endurer, ouais. Lambert, il devrait pas penser ça. » C'est-tu un leitmotiv pour toi de dire « Attends un peu, il y a du monde qui m'aime, mais il y a autant de monde qui sont contre mes opinions, mais tout ce beau monde-là me suivent, tu sais? »
Je me pose pas cette question-là, tu sais. Regarde, je vais te donner un exemple. Au moment qu'on enregistre ce podcast-là, c'est la semaine que PSPP annonce qu'on va être exterminé si on ne vote pas pour la séparation. Bon.
Il est en train de se nuire à lui-même, lui-là, puis
ben oui,
lui, à la cause du Parti québécois. Ouais.
Je me dis, bon, ben, j'ai une opinion par rapport à ça, donc je vais aller l'écrire. Et là, je l'écris, puis là, les messages, j'en ai de toutes. Mais je dirais que les plus mordus vont m'écrire pour me dire, t'es d'un patate, puis c'est vrai qu'on est en train de se faire exterminer. Là, j'ai des gens, j'achèterai plus tes produits. Ça, c'est la menace qui peut sortir à l'occasion. Bon, quand on me dit ça, je vais souvent voir s'ils sont dans ma base de données. Et ça fait 5 ans et demi que je suis en affaires, puis la plupart n'ont jamais rien acheté. Donc, c'est pas de. Je ne le fais pas avec une insulte. J'amène une opinion. Je pense, mon opinion dans ce cas-ci est très simple. Est-ce qu'il y a dérapé par rapport à ça? Je pense que oui. Et je pense, moi, le séparatiste en dedans de moi, la personne qui serait prête à refaire la souveraineté, me dit ça, j'embarque pas dans le climat de peur. Et ça me fait décrocher. Donc, merci, mais je vais passer mon tour. Alors que je faisais partie de ceux qui attendaient. Ils disaient, flirtez-moi, là, montrez-moi une équipe. Mais là, ça fait diviser, bien entendu, parce que les vrais séparatistes sont en maudit après moi en ce moment. Mais c'était seulement une opinion. Est-ce que je pourrais la retenir? Bien, c'est plate, les gens qui n'ont pas d'opinion. C'est plate. Moi, j'en ai des opinions. Ma blonde aussi, on les aimait. Dans le respect, j'ai juste dit que, regarde, je viens de décrocher. Là, il y avait une chance de me raccrocher. Moi, un discours de peur, je décroche. Ouais. Merci, bye.
Mais ça fait énormément réagir. Mais c'est ça. Je me demandais jusqu'à quel point tu étais conscient que les gens qui chantaient des bêtises, des fois, sur les réseaux sociaux, c'est semaine après semaine. Ces gens-là, ils suivent François Lambert pour savoir ce que François Lambert va dire. Puis après ça, c'est toujours les premiers à répliquer. Mais ces gens-là te suivent. C'est tes meilleurs fans, en fait, parce qu'ils sont toujours à l'affût de ce que tu vas, dire. Je me suis dit, est-ce que François Lambert a compris cette portion-là? C'est-à-dire, mes followers, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, tu sais, en bout de ligne, ça devient des followers, là.
Oui. Bien, je te dirais que si on recule 5-6 ans, je pensais à ça plus. OK, parfait. Je le sais qu'ils vont m'aimer ou me détester, mais je m'en fous. En vieillissant, tu choisis tes batailles. Tu sais, je demande des débats dans le respect. Et si le débat n'a pas de respect, j'ai moins de patience pour essayer de convaincre quelqu'un. Si on m'envoie promener, ben c'est un bloc automatique. J'ai plus le temps, j'ai plus la patience d'endurer ça. Mais les gens vont me suivre parce qu'il n'y a rien de plus plate que de suivre une compagnie qui nous place ses produits 8 fois par jour, qui n'ont pas d'âme. Voici mon produit. Ah, ben voici, c'est plate, ça n'a pas d'âme. Moi, j'ai une âme. Et j'ai décidé que je bâtissais une entreprise basée sur un concept de magasin général en ligne. Bon, comment je le fais, le magasin général? Je suis en direct 2-3 heures par jour. Je fais des statuts, je commente les statuts, je suis disponible. Et en même temps, bien, dans un magasin général, tu as des gens qui viennent dans le magasin juste acheter. Ils rentrent, ils ne te connaissent pas, ils ne veulent rien savoir de toi, ils veulent avoir une canne de tomate, ils partent avec leur canne de tomate. Il y a toujours celui qui est assis au comptoir, qui n'achète jamais rien, mais qui est toujours en train de raconter des histoires. Il fait partie des meubles, mais il n'est pas du magasin général. Il y a des gens qui me suivent juste pour discuter avec moi. Ils achètent une fois de temps en temps. Puis il y a des gens qui vont acheter parce que je leur ai raconté une histoire par rapport à la farine. Puis là, ils vont dire, ah ben oui, telle farine, parfait, m'en prendre chez nous, je vais raconter ça à ma femme ou à mon chum. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de bâtir l'entreprise, une entreprise qui me ressemble, une entreprise qu'on peut avoir des débats. Et à l'occasion, je le sais que à un moment donné, je vais perdre des clients par rapport à ça, mais je vais en gagner d'autres. Et 6 ans plus tard, je peux dire que ma stratégie fonctionne parce que j'ai une augmentation cette année du chiffre d'affaires de 24 % et le nombre de gens qui viennent visiter mon site a doublé dans les, si je compare par rapport à la même période l'année passée. Donc, ce que je fais, je dois le faire d'une façon pas pire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont hésiter d'acheter des produits à l'occasion? Oui. Mais la majorité n'hésite pas parce qu'ils savent qu'on fait des produits sincères et de qualité. Puis ça me fait pas peur de mettre mon opinion.
François Lambert, je vais te poser des questions. Je pense que ça doit être la question qui t'est le plus souvent posée. Peut-être que je me trompe, tu sauras me reprendre. J'ai énormément d'hommes et de femmes d'affaires autour de moi. Puis je te dirais que les âges, ça peut partir de 25 jusqu'à 80 ans. Et ils se font toujours demander, puis parmi cette gang-là, il y en a à peu près 10 % qui sont indépendants de fortune. Là. Puis c'est d'eux autres que je veux te parler, de ce 10 %-là. Ils se font toujours demander, tu sais, Pierre, pourquoi t'arrêtes pas? Tu sais, t'es indépendant de fortune, tu pourrais profiter de la vie. Puis à chaque fois, ils se disent, mais voyons, pourquoi les gens pensent que je devrais arrêter parce que je suis indépendant de fortune? Ce qui me motive, moi, c'est de faire de la business, c'est de faire des bons deals, c'est de développer, c'est de créer. Ouais. Mais on dirait que quelqu'un qui n'a pas l'impression qu'il peut accéder à l'indépendance financière, on dirait qu'il se dit, ben moi, le jour où je vais y accéder, je vais tout arrêter, alors que la réalité, c'est que tu es un être humain puis tu as besoin d'être créatif, tu as besoin de bouger, tu as besoin de te développer en tant qu'être humain. Toi, ton mindset par rapport à ça, quand les gens te disent, François, tu sais, si tu repars une entreprise, tu es encore obligé de dormir 4 heures par jour puis tu travailles tout le temps, pourquoi tu n'arrêtes pas? Tu leur réponds quoi, François Lambert?
Bien, je leur réponds qu'à 42 ans, j'ai fait cette vie-là. Moi aussi, je pensais que c'était ça, être entrepreneur. Moi, s'il avait fallu, quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, s'il y avait eu TikTok, Instagram, puis tous les clichés qu'on voit des entrepreneurs qui se promènent dans le Sud, j'aurais été dangereux. Ça n'existait pas, puis c'est tant mieux, parce que je me suis lancé en affaires pour prendre ma retraite. Je faisais partie de ces gens-là, disaient, tu lances une entreprise, ta mébelle, tu la vends, tu prends ta retraite, puis tu ne travailles plus le restant de tes jours, tu profites de la vie. J'ai pensé que c'était ça, profiter de la vie, en 2012. Et là, je me suis ramassé chez nous. Oui, j'ai de l'argent pour le restant de mes jours. Mais je fais quoi? Mes enfants ont 8 ans puis 10 ans. Je fais quoi?
Tes jobs travaillent.
Mes chums travaillent, je t'appelle toi pour venir prendre un café. Tu me dis oui, parce que là, tu es disponible, mais demain, tu ne l'es pas, c'est fini, là.
Ouais.
Des chums où est-ce qu'on peut aller prendre des cafés et raconter des histoires? Il n'y en a pas tant que ça le jour. Je veux bien aller jouer au golf, mais après 5 rondes dans une semaine, moi, je suis tanné, là, ça me prend d'autres choses. Et quelques mois après avoir vendu, j'ai fait, mais c'est pas ça que je voulais. Mais là, j'ai vendu, là, je ne veux pas retourner. Là, j'ai fait mon deuil de cette entreprise-là. Je me suis assuré de faire une séparation. Mentalement, je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas me lancer en affaires parce que c'est bien trop tough se lancer en affaires. Et là, c'est là que j'ai eu les années les plus plates, pas dépressives, mais plates. Et c'est là que j'ai découvert que je suis TDAH parce que toute ma vie, pour réussir, je me lève à telle heure, j'ai un mindset, faut que je fasse ça, faut que j'accomplisse ça, faut que je réussisse, faut que je réussisse. Et tout ça, j'avais caché mon TDAH. Je l'avais canalisé. Mais là, quand je me ramasse à rien à faire, je veux bien aller m'entraîner, mais c'est pas assez. Et c'est là que j'ai compris que si on est un vrai entrepreneur, parce qu'on peut être un vrai entrepreneur qui monte une entreprise, qui la vend, puis qui passe à autre chose. Pendant qu'il le fait, il est un vrai entrepreneur. Si on est un entrepreneur de carrière que je ne savais pas que j'étais, tu as besoin de créer toute ta vie. Et j'ai besoin de développer quelque chose. Et je le sais maintenant que je ne retournerai pas à la retraite complète comme je l'ai fait. Si je le fais, ça va être différent, mais je considère que je suis déjà à la retraite parce que ma job à moi, comme la plupart des entrepreneurs devraient faire, c'est de vendre une histoire. Moi, c'est pas moi qui ai fait les gaufres, pas moi qui ai fait les beignes. J'ai une usine, puis j'ai des employés qui sont mes sœurs et mes employés qui le font. Ma job à moi, c'est d'être sur les réseaux sociaux, d'en parler. Donc, au lieu d'aller prendre des cafés avec des amis, je les amène à venir prendre un café chez nous. En prenant votre café sur YouTube le matin, sur TikTok, je prends un autre café avec les gens. J'aime prendre le café, fait qu'au lieu de le prendre seul dans mon coin, je le prends avec les gens. Et je n'ai pas l'impression que je travaille. Est-ce que je fais beaucoup d'heures? Oui, parce que je dis, ah oui, il y a des podcasts comme le tien, je fais de la radio, je fais de la télévision, je fais d'autres enregistrements, je me tiens à l'actualité en faisant mon propre show sur YouTube. Mais je n'ai pas l'impression que je travaille vraiment parce que je peux remettre au lendemain tout ce que je fais, à part les obligations, mais j'ai du fun dans la vie. Est-ce que ma journée est trop remplie? Oui, elle est trop remplie. C'est trop rempli en ce moment. Mais c'est ça, être entrepreneur. Je suis en train de bâtir et j'ai du fun parce que c'est moi qui s'occupe de la R&D. C'est moi qui crée des nouveaux produits. Et c'est là que mon côté entrepreneur créatif que je ne savais pas que j'avais non plus, que j'ai découvert en goûtant la retraite, qu'il me manquait ce côté-là. Donc pour moi, c'était OK, mais ça, je peux plus l'éteindre. Le côté créatif des entrepreneurs, de créer de nouveaux produits, de développer, de faire des deals, de grandir, je ne peux plus l'éteindre. Ça, je le sais qu'il va être allumé toute ma vie. Et je dois vivre avec cette maladie de création qui est là, mais qu'en même temps, qui est vraiment le fun, qui est
Ouais.
vraiment le fun.
Ton désir dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça vient de quelque part? Est-ce que tu es un self-made man? Est-ce que tes parents, ton père, ta mère avaient leurs propres entreprises? Ils t'ont montré le chemin, t'ont dit, ben garde, si tu veux être homme d'affaires, on peut te montrer comment faire de la business ou tu t'es parti de toi-même?
Je viens d'une famille assez modeste dans le fond d'un rang, ce qui est mon usine actuellement. Mon père il était grossiste pour les 5, 10, 15, l'ancêtre des Dollarama. Il y a des petits kiosques dans tous les dépanneurs. Mon père était grossiste pour ça. Mais il n'y avait même pas ça. Donc, il a tout vendu pour aller élever des moutons. Et on a vécu dans la misère, là.
Ah
On a
ouais.
vécu vraiment très, très pauvre, là. Vraiment pauvre, là. Mais je ne m'en suis pas rendu compte parce qu'on ne vivait pas pauvre vraiment mentalement. Mon père s'est jamais été une victime. Ma mère non plus. J'ai appris à cuisiner avec ma mère. Elle a cuisiné avec ce qu'il y avait disponible. Donc, quand j'ai parlé de l'épicerie à 75$, c'est parce que ma mère cuisinait avec 3$, elle, dans le temps. T'sais? Donc, la seule chose que mon père ne m'a pas montré, si on veut, à monter une entreprise successful parce qu'elle n'a jamais été su à succès, la ferme. Il m'a juste montré que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu travailles plus fort que la moyenne. Donc, lui, c'était pour pas faire faillite, à peu près. Qui travaillait plus fort. Et le travail, ben, c'est plus ça qui m'a inculqué la partie travail. Développer une entreprise, avoir du succès, c'est de respecter ses clients. Ça aussi, il me l'a montré. Mais tu sais, entre le montrer et à un moment donné, le transformer en dollars, il y a une partie qui vient avec l'expérience de vie et les personnes avec qui tu vas travailler, les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Mais on vient d'une famille très pauvre. Mon associé, Georges Karam, c'est un immigrant qui s'est poussé du Liban parce qu'il y avait la guerre là-bas. Donc, on est partis tous les deux de zéro, travaillant avec un désir de réussir qui était plus fort peut-être que la moyenne, tout simplement.
Et l'étincelle de l'entrepreneuriat, tu l'as eu comment? Est-ce que t'as étudié pour devenir entrepreneur? Je ne sais pas, t'as-tu étudié en affaires?
J'ai étudié en finance et économie, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un homme d'affaires. Mais dans ce temps-là, on n'appelait pas ça entrepreneur, c'était un boss. Je vais être mon boss. Jusqu'à temps qu'un moment donné, ça devienne moins bosseux, parce que je ne suis pas un boss. Je ne me considère pas un boss. Je me considère un élément. Je suis celui qui s'assure qu'il y a de l'argent dans la compagnie puis qu'il y a des nouveaux produits pour créer de l'engouement constant. Mais j'ai toujours voulu, toujours. Et d'ailleurs, quand je me suis lancé en affaires sur le tard à 33 ans, j'avais la chienne comme tout le monde. Ben oui, mais je vais faire faillite. Je trouve pas de bonne idée. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Et à un moment donné, ma blonde est enceinte. Je viens de m'acheter une maison. Je suis pas en affaires. Je reviens de travailler de Toronto. Georges revient du Liban. Et on se regarde. On dit là, on est tanné de travailler pour quelqu'un. On se lance. On a trouvé une idée rapide qui n'était pas bonne. Mais on s'est lancé parce qu'il fallait que je le fasse.
C'était quoi l'idée rapide, pas bonne?
L'idée était bonne, mais on était 25 ans avant de notre temps. C'était d'utiliser la voix pour aller sur Internet. Et ce qu'on a fait, on a fait un portail de voix qui avait une panoplie de services. Ça fonctionnait,
ouais.
Mais l'adoption des gens n'est pas encore là aujourd'hui, 25 ans. On sait que ça fonctionne, la reconnaissance de la parole. Mais encore hier, j'appelais un service à la clientèle, puis on me parlait, il fallait que je réponde, puis je faisais juste le zéro le plus rapidement possible pour parler à un être humain. Donc, on était trop en avance sur notre temps, donc ça n'a pas marché. On s'est reviré de bord. Il y a eu une opportunité de centre d'appel. On l'a lancé en 2003 et ça a explosé jusqu'à temps qu'on le vende en 2012 avec 2600 employés.
2600 employés?
Oui, c'est gros. C'est gros. Ouais.
Mais t'avais-tu de l'expérience là-dedans ou tu t'es dit, non, on y va, puis let's go, on le développe?
On a appris, le gars qui nous a fait confiance chez Fido, on avait de l'expérience pour... On se considérait pas pire gestionnaire, mais on avait géré des professionnels. Moi, je gérais des architectes de centres d'appel, des programmeurs. Là, on est tombé dans une autre catégorie qui sont des agents de centres d'appel qui n'ont pas fait de carrière là-dedans, qui viennent juste pour, en attendant d'un autre job ou parce que personne d'autre veut les embaucher. C'est ça la réalité d'un centre d'appel. Il n'y a personne qui arrive avec son doctorat pour dire « j'ai fait un doctorat en centre d'appel et je m'en viens prendre des appels ». Ça ne marche pas comme ça, là. Donc, on a eu un choc majeur de la gestion de ça, mais on a eu une opportunité. Et quand une opportunité se présente, on a dit au gars de Fido, fais-nous confiance, on ne te laissera pas tomber, puis on va apprendre rapidement. On a appris rapidement comment gérer des données dans un centre d'appel, et on a eu un premier test qui a duré un week-end avec 20 agents, ça a marché. Et on a monté comme ça continuellement. On avait zéro expérience dans le domaine du centre d'appel. Zéro, 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 zéro. On l'a appris rapidement. On l'a appris parce que on n'avait pas d'autre choix. On n'avait pas d'autre idée d'entreprise. C'était ça ou rien. Donc, fallait qu'on le réussisse puis qu'on apprenne.
T'as-tu toujours été à l'aise dans l'incertitude? Parce que quand on se part une entreprise, notre objectif, c'est que cette entreprise-là puisse croître, mais ce qu'on veut, c'est de travailler dans un domaine qui pourrait peut-être être inspirant pour nous. Toi, dans ton cas, c'est un centre d'appel. Je pense pas que c'est ce que tu rêvais d'ouvrir quand t'étais jeune, mais à un moment donné, une opportunité d'affaires qui est arrivée, puis tu t'es dit « voici une excellente entreprise, une excellente façon de développer une entreprise, puis d'amener des idées peut-être novatrices, puis de donner peut-être un genre de sentiment d'appartenance à des employés qui, au départ, travaillent dans un centre d'appel. C'est comme, regarde, je vais faire ça 3 jours, mais aussitôt que je me trouve une job d'indépanneur, m'en vais au dépanneur. T'sais, t'as-tu vu un challenge là-dedans? Parce que moi, je vois une certaine façon, un François Lambert qui, lui, l'incertitude, c'est pas plus grave que ça. On se fait confiance, puis on avance.
Écoute, c'est drôle parce que je suis en train d'écrire une bande dessinée entrepreneuriale que je mets, à chaque fois que je réussis à faire une page, je la mets sur mon site. Et cette semaine, j'ai justement parlé de la positivité extrême. Et comment t'as regardé dans le miroir, disait t'es beau, t'es fin, t'es capable, comment que c'est bien intéressant, là, mais comment ça t'amène absolument à rien. Moi, je suis un gars insécure en partant. Cette insécurité-là, puis je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui le sont insécures. Mais cette insécurité-là doit nous pousser à être meilleurs. Et si vous m'avez suivi pendant que j'étais à Big Brother, c'était l'exemple parfait. J'avais la chienne à tous les jours de me faire mettre dehors. pendant 92 jours, je n'ai jamais été une fois en danger. Pourquoi je n'ai jamais été une fois en danger? Parce que je m'assurais chaque jour, qu'est-ce que j'ai fait correct? Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Comment je peux m'améliorer comme personne? Parce que dans Big Brother, c'est ça. Mais c'est ma vraie vie en dehors. Comment je peux m'améliorer? Moi, je connais mes chiffres. Je connais mes rapports. Je connais mes clients. Je sais quel produit sort pas, pourquoi il y a des retours. Donc, cette insécurité-là fait que je m'informe et je travaille encore plus fort. Je me dis, ah, je n'ai pas poussé assez dans cette ligne-là. Il faut que j'écrive un statut. Il faut que j'aille en direct. Il faut que j'aille en parler. Donc, oui, je suis insécure, mais pas une insécurité qui m'étouffe, une insécurité qui me pousse à aller plus loin, à aller fouiller ce que mes compétiteurs font, à aller fouiller ce que le marché fait, à utiliser les nouvelles technologies pour couper mes coûts. Moi, j'utilise, si tu voyais mon écran d'ordi en ce moment, là, j'ai ChatGPT, j'ai Gemini d'ouvert, j'ai Claude.ai, j'ai Perplexity, j'ai Midjourney, tout ce qui est intelligence artificielle est ouvert. Sur moi, je l'utilise pour m'avancer, pour aller plus vite que la moyenne et couper mes coûts. Et c'est ma façon à moi de me sortir du lot, tout simplement. Écouter mes clients, travailler plus fort et montrer une insécurité, mais qui ne m'étouffera pas, qui va faire que, hey, je vais travailler encore plus fort aujourd'hui, parce que je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis.
Ah, je trouve ça intéressant. On va faire abstraction du fait que tu es là, puis là, tu vas parler à François Lambert, OK? Est-ce que tu es conscient que l'image que tu projettes, c'est pas une image de gars qui est insécure? On a toute l'impression que François Lambert, il est très, tu sais, il est très à ses affaires, puis c'est droit, puis c'est assumé, puis en calculant tout, tout va bien aller. C'est ce que tu me donnes comme impression. J'imagine que si tu avais la chance de regarder François Lambert, là, c'est assez dur parce que c'est toi, mais c'est l'image que tu projettes de l'homme d'affaires qui représente un succès, puis regarde, prenez-moi ou prenez-moi pas, mais voici ce que j'ai à dire. Tu sais, t'as l'air d'avoir pleinement confiance en toi, là.
J'ai confiance en moi, mais cette confiance-là, je la bâtis en m'assurant chaque jour de comprendre qu'est-ce que je fais de pas correct. Quand j'arrive en direct ou quand j'arrive pour donner une opinion ou quand je présente un de mes produits, je suis confiant qu'il va réussir dans le marché. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon travail avant. Mais, je veux dire, si j'arrive puis je suis pas préparé, moi, je suis pas à l'aise, là. J'ai besoin d'être préparé, j'ai besoin d'aller fouiller. J'arriverai jamais dans une entrevue sans avoir des sujets, sans être préparé, sans... Mais après ça, c'est de l'improvisation. Puis on s'adapte, mais j'ai de l'air d'un... Je suis un canard. Je suis insécure, je vais m'informer, je vais travailler. Puis écoute, je suis prêt, bien, je vais aller le mettre en œuvre. Mais oui, à la fin, c'est l'image de quelqu'un qui a confiance parce que il n'y a rien de pire que l'insécurité qui va engendrer l'insécurité. Si je suis insécure, mes clients n'embarqueront pas avec moi. Si je suis insécure, puis je donne une opinion, ils vont me faire varloper bien raide. Parce que les gens vont dire, ben voyons, t'es-tu à l'aise ou t'es pas à l'aise? T'as maîtrisé-tu cette affaire-là? Donc, ce qui me donne une crédibilité, mais c'est sûr que j'arrive toujours préparé dans tout. Et dans Big Brother, je te dis, je me levais le matin, la chienne qu'aujourd'hui va me faire mettre dehors. Mais ça paraissait pas, donc je me disais, OK, faut que je m'entraîne au cas qu'ils veulent me mettre dehors, moi, être en forme. Faut que je m'informe sur tout le monde sans avoir l'air de m'informer, faut que ça vienne en dedans de nous. Donc, mais c'est ça, là, si je parle à François Lambert, la troisième période, la troisième personne, c'est ça que je suis. Une personne insécure qui s'assure que pour être sécure, il va travailler pour maîtriser le sujet.
Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, as-tu l'impression qu'au Québec, on valorise l'entrepreneuriat? Puis en même temps, est-ce que le Canada, parce que là, le Québec, c'est une province, jusqu'à temps que Paul Saint-Pierre-Plamondon prenne le pouvoir, mais Québec, c'est une province, au Canada, as-tu l'impression qu'on met tout en place pour que les PME puissent se sentir à l'aise, puis peut-être même intéresser des investisseurs étrangers à venir au Québec et au Canada en disant, regarde, il y a des enfers fiscaux qui existent, bien nous, on veut aller dans un endroit qui est un paradis fiscal honnête puis légal, puis ça pourrait-tu un jour être le Canada? J'ai tout le temps l'impression, parce que j'ai une partie où je suis en affaires moi aussi dans ma job, j'ai tout le temps l'impression que les gouvernements mettent des choses en place pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis c'est tout le temps compliqué, tout dépendant du domaine où tu es. Toi, tu es dans l'alimentaire, j'imagine que des fois, ça doit être un peu un asile, là. Il y a des gens qui viennent chez toi pour voir, hey, tu respectes tout, puis c'est compliqué faire les affaires au Québec. Puis aussi, au niveau de la vision du public, j'ai pas l'impression que les gens, ils sont conscients que les PME, bien, c'est le poumon du Québec, là.
Les gens ne sont pas conscients de ça. Puis c'est ce que je prends mon 2 cents par jour pour essayer d'expliquer. c'est quoi la vie entrepreneuriale, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, les gens pensent qu'on veut être riche. Oui, ça fait partie de n'importe qui va se lancer en affaires. Ils espèrent à un moment donné que ça va être une machine à imprimer de l'argent. Très peu d'entreprises arrivent là, mais notre rôle premier, moi, comme entrepreneur, quand je me lève le matin, je dis « Oh, j'ai pas assez de ventes hier. Est-ce que je suis capable de faire travailler tout mon monde aujourd'hui? » Donc, c'est toujours ça. Ma première partie, c'est « Faut que je garantisse les jobs. » Je peux pas. Si je vais avoir des employés qui sont là tout le temps, faut que j'aille le même nombre de travail à faire à chaque jour. Ça, c'est ma job, ma job la première. On ne comprend pas ça parce que c'est le lot des entrepreneurs, c'est des petits entrepreneurs. Ils ne veulent pas avoir des gens. Ils ne peuvent pas dire mettons, comme moi, j'ai Daniel, Ginette puis José qui sont dans ma partie cosmétique. Bien, il faut que j'aille des cosmétiques à faire à tous les jours. Sinon, je vais dire, bien, rentre pas demain. Puis toi, rentre pas demain, finalement, ils vont partir.
Mais oui, c'est ça. Tu vas perdre tes employés. Ouais.
Donc, les gens ne comprennent pas cette partie-là qui est une grosse tâche dans la journée. Deuxième affaire, je te dis, je suis dans l'alimentaire. Bon, je suis dans l'alimentaire et j'ai des animaux. Donc, j'ai deux branches du MAPAC. MAPAC alimentaire, MAPAC animaux. Bien-être animal. J'exporte mes produits à l'étranger. Donc, j'ai l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Je fais des cosmétiques, j'ai Santé Canada. J'ai une ferme, j'ai Environnement Canada. J'ai tout ça, là. Tout ça. C'est assez pour rendre fou quelqu'un. Mais maintenant, quand tu le sais, tu fais comme, OK, bien maintenant, je vais travailler avec eux autres parce qu'ils me rendent fou. OK? Ils me rendent agressif, ces gens-là. Jusqu'à temps que je dise, OK, on va travailler ensemble. Je les ai appelés, puis je dis, regarde, on va travailler ensemble parce que là, ça ne donne rien. Si vous m'écœurez, moi, vous écœurez, puis à la fin, vous perdez, puis je perds. C'est contre-productif. Mais il reste que ça devrait être ça. On devrait avoir, au lieu d'avoir des gouvernements qui viennent nous taper ses doigts, tu sais, quand tu lances une entreprise avec tout ce que je fais, je ne peux pas tout connaître, moi, les règles au complet du MAPAC, puis de l'agence, puis que ça prend un lavabo en stainless, puis... Pourquoi qu'on n'a pas un agent du gouvernement qui aide les entreprises, qui est attitré à nous autres pour dire, « Gars, François, t'es là-dedans, parfait. » Ça, il faut que ça soit fait comme ça. Pense à ça, on va te donner du lousse un peu. Au lieu que, tout à coup, je reçoive un inspecteur chez nous, et là, bang, une amende. Ça, t'as fait, pas fait ça correct. Faut que tu le fasses. On n'est pas des mauvaises personnes, des entrepreneurs. On veut pas couper les coins ronds, mais c'est sûr que si t'arrives out of nowhere, puis tu me fous une facture de 40 000 $ parce que c'est pas à ton goût selon les règles à suivre, c'est sûr que où je le prends où, ce 40 000 $-là? Oui, je devais le prendre, mais je le savais pas. Si je l'avais su avant, j'aurais fait ma planification financière d'une façon différente. Donc oui, il y a des règles. Le problème, c'est qu'on a un État qui nous cherche à nous prendre les culottes baissées. Et c'est ça, moi, qui m'énerve un peu à l'occasion comme entrepreneur. J'aimerais bien mieux que quelqu'un vienne de façon positive. Il est mon allié, lui, contre toute cette armée-là qui est contre moi. Là. Il n'y a personne qui est contre moi, là, mais c'est le même que je vois ça, qui est mon allié. Et lui, là, il veut que mon entreprise réussisse parce qu'il va avoir des bonus là-dessus. Donc, lui, là, il va m'aider. Tu veux exporter, François, à Los Angeles? Parfait, moi, te faire rencontrer quelqu'un. Imagine-toi que je te parle de ça à Los Angeles parce qu'il y a le consulat du Canada à Los Angeles. À un moment donné, j'ai un contact, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, tes gaufres sont spéciales à l'érable, on pourrait les vendre là-bas. » Je rentre en contact avec lui. La seule chose qu'il fait, le maudit paresseux, il me donne une consultante à 4 000 $ par mois que je dois payer au moins pendant 2 ans avant d'espérer de pouvoir rentrer dans des grandes chaînes. Donc, il m'a servi à rien. Il m'a juste donné un contact que je vais payer 4 000 $ par mois. C'est pas ça là, que je veux. Si tu as un contact, tu le connais-tu, toi, telle branche, Whole Food ou n'importe quoi que je puisse. Si tu connais un contact qui connaît un contact, tu ne me sers à rien. Donc, on veut exporter, mais on a besoin d'aide. Tu sais, si je veux exporter vers la France, je le fais comment? Je m'en vais comment, à part, je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on peut créer de la richesse au Québec, qu'on ait des agents de liaison, que leur mandat, aux autres, c'est de fouiller partout et dire, François, il y a un deal là-bas, puis moi, je travaille pour toi. Ils travailleraient, mettons, pour 20 entreprises et qui se protégeraient. François, je suis allé te voir, regarde telle partie, là, ça ne rentre pas dans les nouvelles règles du MAPAC. Il y a des nouvelles règles. Tu sais, travaille là-dessus, je vais les aviser que tu travailles là-dessus.
Ce que je comprends, c'est que souvent, les agents du gouvernement débarquent avec le bâton plutôt que de débarquer avec les nouvelles règles qui sont mises en place ou voici ce que tu pourrais faire pour améliorer telle ou telle affaire parce que la règle veut que ça te prend un truc en stainless. T'aimerais mieux que la personne arrive avec une approche qui est dynamique, positive, qui est là pour t'aider à croître en tant qu'entrepreneur puis à croître en tant qu'entreprise plutôt que de te foutre des amendes constamment puis à l'externe, interne aussi, avoir des employés fonctionnaires qu'on paie à gros prix, là. Je veux dire, tu sais, on a des ambassades maintenant un peu partout, puis on a des endroits où des bureaux d'affaires à Los Angeles ou même à New York.
On a partout.
C'est des facilitateurs. Ils devraient être des facilitateurs. C'est pas des gens qui devraient plus nous compliquer la tâche pour pouvoir exporter, là.
Bien, ces gens-là devraient nous ouvrir les portes, mais moi, je ne les connais pas.
On les paye pour ça, François.
Bien, c'est ça. Donc, on a besoin. Moi, ce que je demande, moi, je ne veux pas de subvention, j'en ai pas de subvention. Je ne veux rien savoir parce que je ne veux pas rendre de compte à d'autres. Je ne suis pas bio, mais je fais de l'agriculture responsable parce que si je suis bio, j'ai une autre armée qui débarque chez nous, voir si je respecte toutes les règles bio. Donc, à un moment donné, tu choisis tes batailles et... Moi, ce que je veux, et je pense que ce serait plus productif, je pense, les entrepreneurs, aidez-nous à commercialiser. Coupez les subventions. Là, je pense sincèrement que la plupart des entrepreneurs ne veulent pas dépendre d'une subvention parce que une subvention, c'est très simple. Hein? Dès que tu as une subvention, si le gouvernement change, si les règles changent, bien, les subventions sont coupées. Regarde le gain en capital hier, coupé. Bon, on a changé les règles parce qu'on manque d'argent. C'est dangereux pour une entreprise de dépendre des subventions. On n'a pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients. Un coup qu'on a des clients, après ça, là, on va s'arranger pour livrer la marchandise. Si on n'est pas rentable, bien, changeons de business, tout simplement. Mais c'est ça, moi, que je verrais. Si j'étais au pouvoir, c'est ça que je ferais comme coup de marteau, vraiment, là, coup de barre dans l'appareil. Parfait. Vous êtes tous là. On va travailler maintenant pour les entrepreneurs, puis on va créer. Tu sais, au Canada, on est 23$. On produit 23$ de l'heure de moins que les États-Unis, en termes de productivité. Hey, on ne pourra pas compétitionner, on ne pourra pas avoir un dollar fort, on ne peut pas compétitionner contre ça. Une entreprise produit 23$ de plus à l'heure, l'autre bord de la frontière que moi, ben, peut-être pas moi, mais que la moyenne. Donc, comment veux-tu compétitionner? Elle empoche 23$ à l'heure de plus. Donc, elle a des profits pour investir, pour se moderniser, pour aller encore plus vite. Nous autres, on traîne de la patte, puis on va traîner de la patte. Donc, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il doit aider les entreprises. Comment il peut les aider? Ce n'est pas en mettant des règles, pas en mettant des subventions, c'est en inversant les rôles et dire on va travailler avec toi. On va aller chercher, on va te donner quelqu'un qui va te trouver des machines qui ne coûteront pas cher. Parce qu'à toutes les fois, moi, on m'approche souvent, François, regarde, j'ai une machine, je viens d'être informatisé. Cadbury, là, j'aimerais ça te présenter ça. Je dis, voyons, donne-moi une machine à 1 000$. Parle-moi pas d'une machine à 500 000, puis 1 000 000. Je ne suis pas là-dedans, là. Ouais. Je ne serai jamais là-dedans. Donc, il faut changer puis avoir une approche entrepreneuriale au point de vue gouvernement. Maintenant, je te dis, j'ai des bons alliés dans toutes les organisations parce que j'ai changé mon approche de les voir. Mais il reste que quand ces gens-là débarquent dans ton usine, il y a un stress épouvantable sur tout le monde.
Pour avoir travaillé dans la restauration, des fois, c'est la personne arrive puis tu le sais que son travail de la journée, c'est de trouver un bobo dans le restaurant. Puis, tu le sais qu'il y en a de multiples bobos, là, pas qui mettent en danger la santé des clients, mais il y a des petits bobos, des fois, un petit coin de stainless qui est rouillé, et ça, dans la restauration, pour un inspecteur en aliments, c'est un petit coin rouillé sur stainless, c'est une catastrophe. Donc, des fois, c'est des milliers de dollars, puis des fois, il y a des petites amendes qui viennent avec ça, tu sais, je veux dire... Mm-hmm.
C'est extrêmement stressant pour les autres.
Ouais. Mais je te pose la question, étant dans les médias, moi, depuis, je te dirais, 2006, on placote, nous autres, on est des mémères, t'es dans le monde des médias aussi. Quand on se réunit autour d'une bière, on jase. En politique, ton nom sort souvent. Puis ouais. Je sais pas si tu as déjà pensé à te lancer en politique. À la mairie de Montréal, ça va prendre des nouvelles personnes qui vont vouloir y accéder. Coderre, ça semble pas passer. La mairesse Valérie Plante, bon, amène son petit bout de chemin. Québec, ben là, je pense pas que ça t'intéresse de venir t'établir à Québec, mais au provincial, on a le chef du Parti libéral, la chefferie du Parti libéral qui serait disponible. Au fédéral, d'après moi, le libéral devrait être disponible dans les prochaines années. T'sais, pourquoi François Lambert s'intéresserait, irait pas en politique pour essayer de changer les choses en amont?
Bien, j'ai eu une bulle il y a 2 mois disant que j'étais pour me lancer en politique parce que je suis tanné de Valérie Plante.
Ouais.
Je suis juste tanné de voir une dame qui s'occupe pas de la ville, qui est plus intéressée à signer des BD pendant le conseil de ville, qui est plus intéressée à être sur Instagram que de s'occuper de travailler. Mais j'ai eu une bulle, puis là, j'ai fait le lendemain, j'ai dit, mais je peux pas, j'ai... Mon entreprise, elle m'occupait. Et je ne laisserai pas tomber mon entreprise pour la politique. En 2015, je n'avais pas d'entreprise. Justin m'avait approché. Une chance, j'ai pas été. J'aurais été malheureux. J'avais rencontré Bill Morneau. Et Bill Morneau a quitté parce qu'il ne s'entendait pas avec Justin Trudeau. Donc, j'aurais probablement quitté parce que ça ne représente pas mes valeurs, la façon qu'il gère le pays. Ensuite, il y avait Andrew Scheer en 2018 qui m'a approché par l'entremise d'Alain Reyes. Et j'y ai pensé sérieusement. Puis à un moment donné, j'ai passé un week-end à Halifax et j'ai fait « Désolé, mais je ne pourrais même pas embaucher Andrew Scheer comme employé tellement que je ne le trouve pas compétent. Donc, je ne peux pas y travailler pour quelqu'un qui va être mon chef alors que je ne l'embaucherais même pas dans aucune de mes entreprises. » Si ça avait été Alain Reyes, le chef, j'aurais eu de la misère en tabarnouche à dire non. J'aurais probablement été. Il y a 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a approché, un ancien ministre au Québec. Il dit « François, tu étais à l'âge parfait pour aller à Montréal, tu dois y aller. » Mais je dis « Je peux pas. » Okay. Donc, peut-être 2029, je vais être encore jeune. Mais 2025, c'est impossible. C'est impossible.
Parce que c'est un don. C'est un don de soi, la politique. Dans ton cas à toi, c'est une perte de salaire probablement. Il y en a qui s'en vont en politique parce que les salaires sont intéressants. Toi, dans ton cas, ce serait une perte de salaire. En plus, ce serait de laisser ton petit bébé de côté, ton entreprise, pendant un certain temps. C'est
trop risqué. C'est trop risqué pour le travail que j'ai fait. C'est sûr que la politique, c'est un peu comme me lancer en affaires. À un moment donné, l'appel était trop fort. Il a fallu que j'y aille parce que j'aurais été malheureux. Je serais pas malheureux si je fais pas de politique, mais c'est quelque chose que j'aimerais aller voir. Est-ce que je vais faire comme Marc Bellemare, rentrer là puis dire je peux rien changer puis je m'en retourne? L'ancien ministre de la Justice de Québec.
Ouais. Maître Bellemare est un de mes collaborateurs. Il fait l'émission avec moi chaque lundi. Puis c'est un homme avec des valeurs fondamentales extraordinaires. Puis si ce qu'on lui demande, c'est d'aller à l'encontre de ses valeurs fondamentales, il va tout simplement quitter. Et c'est ce qui est arrivé avec le Parti libéral. Quand Jean Charest lui a dit « Le no-fault, Marc, tu voulais l'abolir, le no-fault, mais nous autres, on va le garder. » Il a tout simplement dit « Parfait, moi, c'était la raison pour laquelle je me lançais en politique. Ben, je démissionne, puis je m'en retourne chez nous. »
Bien, c'est exactement ça. Donc, est-ce que je risque de frapper un nœud? La réponse est oui. Mais c'est sûr que ça me tenterait. Mais le timing n'est pas là.
Ça serait quoi, tes allégeances politiques?
Écoute, je suis orphelin politique en ce moment. Je suis un gars économique de droite. Donc, moi, pour me payer... il faut créer de la richesse pour être capable de payer nos services sociaux. Et le problème, au Québec et au Canada en ce moment, on n'en crée pas de richesse. On a un taux de croissance d'à peine 1%. Le taux de croissance est généré par l'arrivée de nouveaux immigrants et par les TPS, TVQ qui vient du pétrole. On ne crée pas de richesse. Si on regarde juste l'indice de la Bourse de Toronto qui traîne la patte par rapport à tous les indices mondiaux, on n'est pas un pays en ce moment qui crée de la richesse. Donc, il faudra en créer. Maintenant, c'est facile à dire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, regarde, je vais te donner un exemple. Le Japon, l'Allemagne et la Grèce viennent de venir au Canada pour demander d'avoir du gaz naturel liquéfié. Regarde, on veut en acheter de vous, on ne veut plus en acheter des pays corrompus. Vous en produisez, on veut en acheter, puis le Canada dit 3 fois non. On est pauvre, on veut avoir des programmes sociaux, on vient d'embaucher 107 000 personnes à fonction publique fédérale depuis l'arrivée de Justin Trudeau. On a embauché 19 000 à Hydro-Québec, on a embauché 23 000, je pense, à fonction publique provinciale. Ces gens-là vont avoir des pensions à vie pour longtemps, là. Donc, ce n'est pas juste leur salaire de 80 000 qu'on paye. C'est 80 000 pour, si tu as 40 ans, ça va être pour les 60 prochaines années. Chaque emploi, c'est comme si on en perdait, ça nous en coûtait 3. Donc, il y aurait un ménage à faire, c'est bien évident. Donc, avec qui je me situe? Un peu la CAQ, le Parti québécois, parce que j'ai un côté souverainiste en moi qui est là, mais qui dort, puis il a besoin de se faire réveiller un peu. Je suis très conservateur au point de vue finance. Les valeurs des conservateurs au point de vue avortement, puis tout ça, ça ne me représente pas, puis la religion non plus. Donc, les NPD, c'est non. Donc, il manque un parti où on parle... Il y aurait peut-être le parti d'Éric Duhaime. Le problème, c'est que j'ai bloqué Éric Duhaime de mes réseaux sociaux. Il me rendait fou en étant déconnecté de la réalité. Donc, j'appartiens à personne, je me cherche comme allégeance, ce qui fait que des fois, je ne vais pas voter parce que je regarde puis je dis, il n'y a rien qui me représente malheureusement là-dedans.
Parce qu'au niveau de la souveraineté, je pense que les gens qui sont complètement fermés, bon, je peux jaser avec eux autres, mais je comprends pas. J'espère qu'un jour, on sera capable... Moi, je suis un nationaliste, là. J'aime bien le Québec. J'aime que le Québec paraisse bien à travers le Canada et tout ça. Je ferme pas la porte à la souveraineté. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on a énormément de richesses ici puis on n'est pas capable de les exploiter convenablement. Prenons exemple l'eau. Là. L'eau, on la donne. Le petit résiduel qu'on peut avoir sur les producteurs d'eau, qui du moins les vendeurs de bouteilles, c'est minime alors que ça représente une richesse. Ça nous appartient puis on la donne. Au même titre que le pétrole est dans le sol puis on ne l'exploite pas, on préfère faire venir du pétrole d'ailleurs, une bonne partie au Canada, une petite partie aux États-Unis puis une très faible partie ailleurs dans le monde, alors qu'on dort sur du pétrole.
Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas, puis tu regardes la caisse de dépôt, qui se désinvestit du pétrole et qui investit dans les énergies, dans les compagnies supposément vertes responsables. Le greenwashing vient de sortir. Tous ces investissements-là ne valent presque plus rien. Le pétrole a monté beaucoup. Et je ne dis pas, je ne fais pas la promotion du pétrole. Il faut faire une différence entre faire la promotion du pétrole et d'avoir un mal nécessaire. On en a besoin. La planète, c'est bien mieux que notre pétrole, même s'il est un petit peu plus polluant, qu'au lieu d'enrichir l'Algérie, l'Iran, donc que les gens achètent notre pétrole, quand c'est rendu que trois pays viennent ici expressément pour venir acheter notre gaz naturel liquide, puis on leur dit non, on ne veut rien savoir de vous le vendre. Mais dans quel monde on vit?
Ah, c'est du grand n'importe quoi.
Puis on regarde la Norvège qui a un fonds souverain pour les 90 prochaines générations. On peut-tu se baser là-dessus? Puis dire, regarde, on va utiliser le pétrole pour tuer le pétrole. Il faut être hypocrite d'acheter du gaz de schiste de l'État de New York qui est juste l'autre bord de nous, alors que nous, on a refusé d'en exploiter, mais on va l'acheter des gens qui sont juste au sud de la frontière. Mais qu'est-ce qu'il nous reste pour créer de la richesse? Hein? Il nous reste à encourager les entrepreneurs, puis il y a des entrepreneurs qui vont sortir du lot.
Mais les idées, là, sont là. Mais moi, ce qui me fait halluciner, quand je te dis que jamais la souveraineté du Québec va se faire, François, quand on parle d'un gazoduc, le gazoduc, là, c'est le moyen le plus sécuritaire de faire passer du gaz à travers le Canada. Mais on dit, non, chez nous, on veut pas ça parce que ça se peut qu'il y ait des dangers, ça se peut qu'il y ait du gaz qui se répande. Donc, même si on sait statistiquement que c'est la meilleure façon de promener le gaz à travers le Canada, au Québec, nous autres, on veut pas embarquer là-dedans. Le nouveau nucléaire, je parle pas de l'ancien, mais le nouveau nucléaire qui est utilisé à la grandeur de la planète, on n'en veut pas au Québec. On a fermé Gentilly, qui est la vieille technologie, puis c'était peut-être une bonne façon de faire aussi, la fermer à ce moment-là. Mais malgré le fait qu'il y a à peu près une vingtaine de réacteurs nucléaires au Canada, le nucléaire au Québec, ce serait impossible parce qu'on a peur de ça. On a vu des films, on a été à l'école, on a entendu parler de toutes les catastrophes nucléaires. On veut pas de ça au Québec. On dirait qu'on est petit, puis on veut rester petit parce que ça fait notre affaire d'être petit.
Regarde, prenons un exemple des îles de la Madeleine qui font leur électricité à gros coups de diesel. Est-ce que ça fait du sens?
Ben non.
Il devrait y avoir des éoliennes partout ou avoir des petites centrales nucléaires là-bas. On parle du Grand Nord. Ils n'ont même pas d'électricité où ils fonctionnent au diesel. On a de la misère à amener le diesel dans le Grand Nord. Alors qu'on pourrait avoir ce qui se passe en ce moment au Québec, dans le monde, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, ils ont besoin des centres de serveurs dans le froid. Donc, les pays froids comme l'Islande vont avoir beaucoup de centres de données. Je comprends que la crypto-monnaie a eu de la fraude et moi aussi, j'ai débarqué. Mais il reste qu'elle est là pour rester, puis le Bitcoin est là, ça commence à se stabiliser, tout ça. Donc, ça a besoin, on a le froid et on a la capacité de leur offrir de l'électricité. Passer à côté des serveurs d'intelligence artificielle pour le Québec, c'est une façon de dire non encore à la création de richesses. On devrait avoir dans le Nord des serveurs à perte de vue des centres de données. T'es parc dans le Nord. L'électricité est là, tout est là, t'as pas à te soucier. Tu peux les amener dans le Sud, mais pourquoi utiliser toutes les lignes pour amener du courant jusque dans le Sud, alors que la seule chose qu'ils veulent, eux autres, c'est l'Internet. Bon, on a moyen d'avoir de l'Internet maintenant à peu près partout. On passe à côté de ça. Ouais. Pourquoi? Pourquoi qu'on dit non à tout, mais à tout, tout, tout? Et on va chercher des entreprises comme Northvolt à coup de milliards de subventions en rêvant qu'ils vont créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois, puis on va récupérer en vendant ça en bourse. Ben, regarde, on a le cas de Taiga, puis on a le cas de Lyon qui a reviré au désastre. Deux compagnies qui étaient supposées être bien bonnes dans l'électricité qui valent une fraction. Il y en a une qui a fait faillite, qui vient de fermer. L'autre, elle essaie de vendre des autobus à personne qui veut les acheter. Donc, le modèle n'est pas bon, puis je ne comprends pas que les gens ne le comprennent pas, puis ils disent, écoute, on va l'essayer, ce modèle-là, on ne peut pas le mettre à côté, mais on va quand même essayer autre chose. Puis à la fin, quand tu regardes l'argent qui va rentrer des centres de données, tu dis, bien, regarde, c'est ça notre richesse, nous autres. Notre richesse, c'est plus Stornoway puis les mines de diamants. Notre richesse, maintenant, c'est de l'électricité à bas prix et le froid qui joue en notre faveur. Ouais. On va maximiser le froid, puis on va l'exploiter, ce froid-là, pour en faire une richesse, parce que ça fait partie d'une richesse. Mais on le fait pas.
Écoute, François, on va faire une courte pause. On va revenir quelques minutes tout de suite après la pause. Je veux juste rappeler aux gens pour qu'ils puissent avoir accès à tes produits. FrançoisLambert.one, est-ce que c'est toujours bon, ça?
C'est toujours bon, ça.
C'est toujours bon. Donc, je vois que tu as énormément de produits. Tu as combien de produits différents hein, sur François Lambert ou
on? On est rendu à 450, mais il y en a qui se regroupent beaucoup. Là. Ouais. Mais on a 450 produits, oui.
Ah, on va aller
tout issu de la ferme.
On va aller magasiner après l'émission. OK. Hey, on fait une courte pause. Je vous rappelle que ce soir, on est avec l'entrepreneur François Lambert, un homme qui fait énormément jaser. On revient tout de suite après la pause, puis on va jaser avec lui pendant encore quelques minutes. Monsieur François Lambert, Juan est avec nous, pas Wang, mais Juan est avec nous encore pour quelques minutes. Quelle belle entreprise tu as. Tu parles de plus de 400 produits différents sur ton site web.
Oui. Ben c'est parce que pour réussir dans le commerce, je ne pourrais pas réussir juste avec des savons. Je ne pourrais pas réussir juste avec des bougies.
Ouais.
Moi, je veux être une entreprise qui, juste avec l'érable, je veux une entreprise qui fonctionne 365 jours par année. Et je veux faire partie de votre vie. Donc, on fait partie de votre vie avec des friandises, avec toutes sortes de produits à l'érable, mais aussi avec des savons, avec des shampoings. On fait des shampoings pour revitalisant. Pourquoi? Parce que j'ai des silos qui sont pleins d'huile, pleins de graines de tournesol et de soya.
Ouais.
J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? J'ai demandé à ChatGPT, je dis, regarde, j'ai ça chez moi. Tu peux-tu me donner des idées de produits? À un moment donné, il me dit, ben, un shampoing, ça te tente-tu? C'est à peu près comme ça, là. C'est mon body, ChatGPT. Fait que j'ai dit, ouais, un shampoing avec de l'huile, ça marche pas, tu sais. Et là, je me suis mis à faire des recherches. La plupart des shampoings qu'on utilise sont faits avec de l'huile. Et ça m'a pris peut-être 7 mois à développer une recette. Puis là, ben, maintenant, c'est depuis, on l'a lancé au début février. Et ça, c'est vraiment le soya pour chez nous, le miel de mes abeilles et le tournesol. Et ce mix-là avec d'autres produits, on fait un shampoing revitalisant. Et en 2 mois, au point de vue chiffre d'affaires, c'est rendu mon produit le plus vendu, les deux combinés ensemble. Puis les autres, on continue à prendre la progression. Donc, on fait partie de votre vie dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans votre salon pour la détente. Et bien entendu, pour toutes les friandises et toute la bouffe qu'on fait, parce qu'on fait de l'ail noir. L'ail noir est un produit exceptionnel. Et ça, c'est en pleine progression. C'est bon pour la santé. C'est bon au goût. Donc, c'est vraiment de faire une ferme différente. J'ai pas juste un produit. Si le tournesol va moins bien l'année, ben j'espère que l'ail ira pas moins bien la même année. Puis c'est comme ça qu'on fait, que les gens peuvent revenir chez nous. Parce que dans le commerce en ligne, ce qu'on veut, c'est que vous reveniez entre les 14 et 28 jours.
Quand
tu reviens chez nous, idéalement, à tous les 28 jours, tu as passé une commande. C'est mon objectif. Ça n'arrive pas, mais c'est l'objectif.
Quand tu as glissé sirop d'érable là, dans tes ventes, est-ce que ça t'a causé du problème, ça? Sirop d'érable, est-ce que tu es devenu un producteur? Y a-tu la secte du sirop d'érable, ils ont-tu dit « Hey, toi, tu es en train de jouer dans nos tales? » Est-ce que c'est problématique d'exploiter du sirop d'érable?
Bien, j'ai commencé, c'est avec le sirop d'érable que tout a débuté.
Oui.
J'avais pas de quota, donc je savais pas comment le vendre. Puis à un moment donné, j'ai commencé à le vendre en ligne, puisqu'on a le droit, et ça a explosé. Et là, il y a des gens qui ont voulu en avoir en dépanneur. Là, je me suis informé sur les règles. Il fallait que j'achète du sirop, ce que j'ai fait. Toujours respecter les règles. Le monde de la sériculture est un drôle de monde. De tous les milieux que j'ai fait dans ma vie, là, il y a toujours eu de la compétition. Il y a toujours eu une saine compétition. Puis une fois de temps en temps, le monde de la sériculture, quand même que j'achète des centaines de barils par année de ces gens-là, il y en a une grande majorité qui ne veulent pas m'avoir dans ce marché-là. Alors qu'il y a un ambassadeur gratuit qui en parle matin, midi, soir, la nuit, je parle d'érable, je fais des produits, on fait des recettes à l'érable. Et ces gens-là trouvent le moyen de m'intimider encore, pas plus tard qu'en fin de semaine, c'est arrivé encore. Ces gens, c'est pas la majorité, mais la majorité qui parle est agressive en tabarnouche. C'est des gens, j'irai pas dans une rencontre d'acériculture, j'aurais sincèrement pas peur, j'aurais la certitude de me faire casser deux jambes ou me faire péter mes pneus d'auto. Je ne fais pas confiance à certaines personnes dans ce milieu-là.
Mais comment t'expliques ça? Pourtant, tu les aides à vendre le sirop d'érable. C'est pas l'objectif de vendre le sirop d'érable?
Hey, je fais des guimauves à l'érable, du popcorn et de la barbe à papa. C'est une joke. C'est pas sérieux pour eux autres. Eux autres, c'est un Japonais dans un restaurant à Tokyo qui va utiliser 10 millilitres de sirop d'érable. Hey, c'est bon, on vend notre sirop d'érable au Japon. Pas besoin d'aller au Japon, là. Moi, je te le vends. En ce moment, on utilise un baril de sirop d'érable par semaine pour faire des guimauves à l'érable. Ça, c'est concret, c'est québécois. Puis qui les achète, c'est les Québécois.
Exact. Donc,
pourquoi essayer de vendre? C'est bien d'essayer de vendre à l'étranger, mais qui connaît le goût de l'érable? C'est les Québécois ici. Fait que moi, quand je dis j'ai une guimauve à l'érable, OK, il y a un lien. T'es à l'érable, donc je m'attends que ça goûte telle chose. Et voilà. Donc, le sucre, ça reste du sucre, mais c'est un sucre qui est mieux. Bon, il y a des débats là-dessus, mais donc, je ne sais pas. Je ne m'explique pas pourquoi que ces gens-là, je les dérange à ce point-là, alors que je suis gratuit. Hein? Je suis gratuit et je n'ai même pas le goût d'aller me chercher un quota parce que le deal est bon. Je passe mes cannes de sirop d'érable à moi sur mon site. J'en ai assez pour l'année. Eux autres sont dans le bois. Moi, je suis devant des clients. Eux autres ne veulent pas parler à des clients. Moi, je veux parler à des clients parce que quand tu vas à des barils, tu l'envoies à Fédé. Moi, j'appelle, envoie-moi 12 barils. Je paye mes 12 barils, j'y reçois, j'y transforme. Donc, j'ai une job différente à faire d'eux. Eux autres sont dans le bois, ils font du bon sirop d'érable. Puis moi, je le vends pour eux autres. C'est ça que je suis un vendeur pour eux autres. Il y en a que ça dérange, là, mais vraiment, ça dérange tellement qu'il y en a un qui a appelé la police cette semaine tellement qu'il voulait il était fâché après moi, puis il a appelé la police. Puis la police m'a appelé, il m'a dit, mais pourquoi tu m'appelles? Ben, il dit, il est fâché. Ben, j'étais pas d'affaire à m'appeler pareil. Il est fâché, il est tellement fâché qu'il voulait me mettre une poursuite criminelle parce qu'il est fâché après moi, parce qu'un de ses employés m'a envoyé chier. J'ai fait comme, OK, là, quand c'est rendu que la police m'appelle, la police n'aurait jamais dû m'appeler, parce que moi, quand j'appelle la police, c'est parce qu'il y a quelque chose de sérieux.
Un danger imminent,
Puis que si la police m'appelle, bon, c'est bien évident que la police était amie avec ce gars-là, puis elle a dû dire, regarde, c'est François Lambert, on va y faire peur. Mais là, je décroche, là. Dans ce moment-là. Je comprends pas. Je comprends pas, mais honnêtement, je m'en fous. Moi, je continue à faire mes affaires. Mon entreprise va bien. Et c'est la prochaine fois qu'il va y avoir des quotas, je vais en demander un cette fois-là. Et ils vont me détester encore plus. Parce que, hey, regarde, t'as acheté des barils, là, maintenant. T'as... Je gagnerai jamais. J'ai compris que dans ce milieu-là, peu importe ce que je fais, il y a des gens qui vont jamais m'aimer parce que je fais des choses différentes.
Mais pourtant, ils savent tout ce que tu dis, puis ils voient tout ce que tu fais, puis sont à l'affût de la moindre petite affaire. Mais quand tu leur parles de François Lambert, « Ah ben là, lui, là, il est dans le sirop d'érable, il n'a pas d'affaire. » Mais pourtant, ils te suivent encore. Pour monsieur, madame, qui t'entendent sur les ondes de Boulevard 102.1 puis qui aimeraient en savoir plus sur toi ou encore assister à tes petits meetings, soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on fait comment pour suivre François Lambert?
Ben, tu commences à 4h du matin sur YouTube où je fais une revue de l'actualité.
Hey, je veux pas te faire de peine, François. Je sais que tu vas peut-être pleurer, là, mais à 4h le matin, moi, je fais d'autres choses.
J'enlève pas à 4h01, hein, mais il est disponible à partir de 4h du matin.
OK.
7h45 à 8h15, je prends un café avec les gens sur TikTok.
Ouais.
À 17h, je fais un souper avec les gens sur Facebook. 19h15, je reviens sur YouTube en direct pour décanter la fin de soirée et soit parler de ce qui s'est passé dans la journée. Et après ça, je m'en vais vers les débatteurs si je débat ce soir-là. Puis à minuit, ben, je rentre dans mon lit et je recommence le lendemain matin.
Ouais. Tu vas-tu te filmer aussi la nuit quand tu dors, des fois que tu dirais quelque chose dans ton sommeil? On ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui voudraient être à l'affût de tout ça.
Non, il ne faut pas exagérer. Mais j'ai déjà pensé à un moment donné, juste pour le kick dans le temps des fêtes, on travaille beaucoup.
Ouais.
Et les gens veulent voir ça ressemble à quoi une entreprise dans le temps des fêtes comme la nôtre. Et j'ai pas assez proche l'année passée de dire, c'est quoi qu'on va faire 24 heures avec vous? J'avais juste pas trouvé une façon d'enregistrer mon téléphone pour qu'il soit toujours chargé puis avoir mon micro pour que ça fonctionne tout le temps puis avoir deux micros, trois micros même pour être capable de fonctionner. Ça se peut que je le fasse en 2024. Mais à un moment donné, je vais vous dire, je suis là pendant 24 heures.
Un 24 voilà. heures avec François Lambert. On va rester à l'affût. François, pour les gens qui veulent avoir accès à ta boutique sur Internet, françoislambert.one, c'est bon?
Oui, O-N-E, le numéro 1. C'est pas pour dire que je suis numéro 1, c'est purement une joke qui est devenue une entreprise. C'est .com était pris, .ca était pris. Ma blonde, elle vient travailler avec moi pour m'aider à booker des conférences. Marilyn Quentin, Gmail, marchait pas. On trouvait pas ça professionnel. On est allé chercher un nom de domaine. J'ai vu .one qui était disponible depuis la veille. J'ai dit, ça va faire rire le monde. J'avais jamais l'ambition d'en faire une compagnie, mais c'est devenu une compagnie.
Ben voilà. Puis maintenant, ça nous reste dans la tête. Ça a été un plaisir. Ça a été une belle rencontre avec toi, François. Je pense que les auditeurs qui t'avaient demandé vont être agréablement surpris de t'entendre sur les ondes de Boulevard, puis ils vont être surtout très heureux. Puis c'est la raison pour laquelle on fait ce métier-là. C'est pour rendre nos auditeurs heureux. C'est pour rendre notre auditoire heureux.
Ben merci beaucoup.
Merci à toi. Bye-bye. Bonne fin de soirée. Nous autres, on se laisse là-dessus. Je souhaite de passer une agréable soirée sur le 102.1. Puis on sera là demain pour notre émission d'actualité à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.